Bonjour à tous. Oh, ça résonne. C'est la voix qui vient d'en haut. Ce matin, c'est encore une grâce de pouvoir parler, partager ce que c'est a mis sur mon cœur, tant pour moi-même que pour vous tous aussi. Comme je dis souvent, quand on prêche, on se prêche à soi-même. C'est lorsqu'on est, on réfléchit et qu'on partage et qu'on recherche, en somme, un peu le thème de ce que Dieu veut mettre sur notre cœur, là, nous sommes enseignés et souvent repris et ramenés dans une voie qui est la bonne voie, celle que Dieu veut, et non pas celle que nous aimerions, nous, voir manifester. Comme tout à l'heure, avec ces arbres, cette image de ces jeunes arbres, de ces vieux arbres, je pense que les jeunes arbres ont remplacé des vieux, qui ont été coupés, qui ont été supprimés, qui ne vivent plus. On a à veiller, frères et sœurs, sur notre vie chrétienne à chacun de nous, parce qu'il faut travailler à notre salut. Il faut en somme garder la bonne santé avec le Seigneur. Combien d'arbres, je vois sur le canal du Midi, on a abattu un certain nombre d'arbres qui étaient là, plus que centenaires, des platanes, parce qu'ils étaient malades. On a à veiller sur notre santé, mais c'est le Seigneur qui va nous donner la bonne santé. Et c'est lui, au niveau spirituel, qui peut nous la donner. Et ce matin, à travers ce que je veux vous partager, ça peut nous interroger énormément. Moi, le premier déjà, vous savez, les béatitudes, vous les avez souvent lues, les béatitudes. Hein ? Dans quel évangile, paraît-il ? Matthieu. Et quel chapitre ? Hein ? Si, vous le savez. Vous l'avez là. Chapitre 5. Mais je voudrais m'arrêter sur une des béatitudes. Chapitre 5, donc, et le verset 7. Simplement. Qui dit ceci ? Heureux les miséricordieux, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Texte court, assez explicite, mais je pense que il faut faire attention que ce texte ne soit pas celui qui nous introduit dans la présence de Dieu par nos mérites. Heureux les miséricordieux parce qu'ils obtiendront miséricorde. Non, le texte, ça me gêne un peu. Je veux dire, mais mettre la parole de Dieu en doute quand même, non. Mais moi j'ai trouvé peut-être une autre expression qui semblerait peut-être meilleure. Je dis ceci, ceux qui ont obtenu miséricorde de la part de Dieu sont si heureux qu'ils sont miséricordieux envers les autres. Vous saisissez ? Je répète. Ceux qui ont obtenu miséricorde de la part de Dieu sont si heureux qu'ils sont miséricordieux envers les autres. C'est la grâce de Dieu manifestée d'abord qui est importante. Si nous avons découvert ce que Dieu est pour nous, ce Père qui est riche en bonté, lent à la colère, et qui nous apporte sa grâce, à plus forte raison, nous aussi, nous devons avoir une attitude qui confirme auprès des autres cette grâce que Dieu nous a faite. Notre attitude vis-à-vis du prochain mesure notre relation avec Dieu. Eh bien, notre attitude à l'égard, vis-à-vis du prochain, mesure notre relation avec Dieu. Plus que toute autre déclaration de caractère évangélique, où on a des mots, on a un certain patois qu'on utilise, hein, en tant que chrétien. C'est un patois. C'est une tradition peut-être parfois. Attention, parce que notre langage n'est pas suffisant. C'est notre façon de vivre qui est important. Notre comportement, nos actions, dans l'attitude qui doit être la nôtre vis-à-vis du prochain. Mais, dans ce cas-là, sommes-nous vraiment ceux qui ont obtenu miséricorde de la part de Dieu? Est-ce que nous avons la conscience de la réalité de cette miséricorde qu'il a eue à notre égard? Ou est-ce que, finalement, on dit « Dieu est bon ». J'entends beaucoup de gens à qui on peut témoigner. Moi, je n'ai jamais fait de mal à personne. Et puis, je sais que Dieu est bon, c'est le bon Dieu. Il ne peut pas me punir, voyons, il est bon. Il ne peut pas me faire aller en enfer. Ben, ce n'est pas possible. Il est un bon Dieu. Oui. Mais il est aussi celui qui, comme disait tout à l'heure dans sa prière Gilles, qui nous corrige. Qui nous corrige également. Et on n'aime pas la correction. Les enfants, ils ne sont pas là aujourd'hui. Ils ne sont plus là. Il y en a quelques-uns peut-être. Ils n'aiment pas la correction. Hein. Et puis en plus, maintenant, aujourd'hui, dans les lois qui ont été votées et décisions qui ont été prises, on ne peut plus battre un enfant. On ne peut plus le toucher. Les vieux instituteurs, autrefois, ne s'en passaient pas. Hein, à la loi. Il n'y a pas de loi. Et comme on en parlait hier avec des frères, on était à manger chez eux, ils disaient, oui, quand on était à l'école, si on nous donnait une baffe, et qu'on rentrait à la maison, on disait, maman, papa, j'en prenais une deuxième. Hein? C'est vrai. Dieu est miséricordieux, mais il est aussi celui qui corrige. Et on devrait l'accepter. Tout à l'heure qu'on a chanté, je te donne tout, hein, je te lis, je me dis, oh là là, est-ce que vous avez tout donné? Est-ce que moi j'ai tout donné? J'ai essayé. Il y a des choses encore au fond de moi-même que je retiens pour moi. Non, il faut être franc, il faut être honnête. Sinon, ici, je serai le meilleur de tous et vous? Mais non. Mais donnez tout, abandonnez tout. Se livrer à Dieu. S'abandonner à lui totalement, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile. Mais, par la grâce de Dieu, c'est possible. Il y a un psaume qui parle de la miséricorde de Dieu. Est-ce que vous le connaissez? Avec quelques lettrés. Le psaume 136. On peut relire quelques passages. Vous l'avez trouvé? Il y a 26 versets. Et 26 fois, il est écrit « Car sa miséricorde dure à toujours ». Il commence ce psaume par quelque chose de très important, en disant ceci « Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Dieu des dieux, car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Seigneur des seigneurs, car sa miséricorde dure à toujours. » Celui seul qui fait de grands prodiges, que sa miséricorde durera toujours. En somme, le premier, la première partie du verset était, comment dirais-je, entonné par celui qui présidait, et toute l'assemblée répétait et disait, car sa miséricorde dure à toujours. Le peuple de Dieu était un peuple rebelle. Il y a eu des situations extrêmement difficiles, mais chaque fois, la miséricorde de Dieu s'est manifestée. Quand ils étaient en Égypte, quand ils étaient des esclaves, la miséricorde de Dieu s'est manifestée. Lorsqu'ils étaient dans le désert, la miséricorde de Dieu s'est manifestée. Malgré leur désobéissance. Quand ils sont entrés dans le pays de la promesse, sa miséricorde encore dure à jamais. Et aujourd'hui, elle dure encore à jamais pour nous. C'est important qu'on le dise et qu'on le proclame. Dans les situations que nous vivons, frères et sœurs, chacun d'entre nous, la miséricorde de Dieu se manifeste. Quand tout va bien, on n'y pense pas. Mais quand les choses vont de mal en pis, quand dans notre vie il y a des drames qui se produisent, lorsqu'il y a des combats et des luttes, n'oublions jamais que la miséricorde de Dieu est là, est manifestée pour nos vies. Nous sommes au bénéfice de sa miséricorde. La miséricorde, c'est une grâce aimante. Il nous aime. Un jour, il y avait un homme, qui était juge, et son fils, qui était un drôle de luron. Il était amené à juger son fils. Un tribunal, le juge, à ta voix, juge est parti. Donc, la loi étant ainsi, le fils a eu une amende. Bon. Donc le juge est descendu de l'estrade où il était, a enlevé sa robe et s'est présenté dans le tribunal auprès de son fils. Et il a dit, moi, je paye l'amende de mon fils. Le juge avait donné la somme à payer, l'amende, légale, et le père, lui, a payé la somme. Il était juge, mais il était aussi père. Et avec la compassion et la miséricorde. Dieu est juge, mais il est aussi un père. Et il donne au-delà de ce qu'on peut voir. On ne se rend pas compte toujours de ce que Dieu fait. Des fois, dans des situations que nous vivons, on se demande, mais c'est pas incroyable, tout se déroule comme un papier à musique. Mais en fait, il y a le Seigneur qui est là et qui a fait que les choses qui étaient impossibles à se réaliser le soient. Dans des conflits, des fois, dans des choses terribles que l'on peut vivre, où tout est fermé. Si nous croyons fermement à l'amour de Dieu, à son amour, à sa puissance, alors les choses avancent. Et même parfois, il faut payer. Il faut être prêt à payer, même le prix. Parce que la grâce de Dieu va se manifester ensuite. Parce qu'on va jusqu'au bout de l'obéissance. Sommes-nous sûrs, chacun d'entre nous, que cette miséricorde de Dieu s'exerce dans nos vies? Si vous en doutez, regardez autour de vous. Combien d'hommes et de femmes ont pu vivre pleinement de cette miséricorde de Dieu? Même parfois, ils n'ont même pas témoigné, mais on le sait. Parce que leur vie, en voyant leur vie, en voyant leur façon de se comporter, ces hommes et ces femmes ont été changés, transformés, parce qu'il y a eu l'action de Dieu et la puissance de Dieu. Des choses qui étaient impossibles. Des gens ont dit, c'est pas possible que ces gens-là se convertissent. C'est les pires que je puisse connaître. Mais un jour vient où Dieu touche et les choses changent. Cette miséricorde, c'est la réponse de Dieu à notre misère. Dieu nous aime et ne nous traite pas comme nous le méritons. Vous savez, il ne faut pas se fier aux apparences. On peut paraître tout à fait saint et être corrompu à l'intérieur, pourri. Mais quand Dieu vient, alors les choses changent. Il nettoie, il lave, il purifie. Il a lavé les pieds aux disciples, il a lavé. Même ceux qui étaient les pires parmi eux. Il ne punit pas selon nos péchés. On entend souvent des témoignages, et on en lit aussi de témoignages de personnes qui ont vécu des expériences extraordinaires, aussi extraordinaires que celles qu'on voit dans la Bible. Parce que n'oublions pas que Jésus a dit, vous ferez des œuvres encore plus grandes que moi. Et qu'il y a des choses qui sont passées, dans le monde, des gens qui ont été, on peut dire, sauvés, ils ont gardé la vie alors qu'il a mérité la mort. Il y a un penseur chinois, il s'appelle Jung, qui a écrit un livre de témoignages. Je ne me rappelle plus de son titre, il s'appelle Citoyen du ciel. Je l'ai rencontré d'ailleurs, cet homme. Je me rappelle que c'était en 2006, on était dans un congrès missionnaire. Et puis j'étais passé, depuis quelques années auparavant, 2005, il y avait 2 ans auparavant, au bord de la mort. J'avais été opéré du cœur, donc, et j'avais vu un triple pontage avec un très grave infarctus. Je devais mourir. Et lui, il ne connaissait pas du tout. Alors, j'allais le voir, et puis il a prié pour moi. Il m'a dit, monsieur, vous étiez mort. Ah oui. Vous étiez mort, mais Dieu vous a redonné la vie pour le servir, encore plus. Vous étiez mort. Et Dieu va vous combler, va vous donner de grandes choses à vivre avec lui. J'étais soufflé. Soufflé parce qu'il ne me connaissait pas. J'étais un parfait inconnu pour lui. Mais cet homme m'a dit ces phrases, ces mots. Et ça nous reste ancré en nous. Dieu nous fait miséricorde, nous redonne la vie. Et cet homme qui avait été, qui était un évangéliste, un apôtre en Chine, un jour il a fait une erreur. En voyageant, il allait en Birmanie et puis il avait 2 passeports. Un officiel et un autre un faux. Il aurait dû se séparer du faux. Quand ils ont fouillé, quand ils ont à la douane, on a regardé ses bagages, on a trouvé 2 passeports. En prison. En prison, un chrétien, un apôtre, qui servait Dieu avec 2 papiers différents. Ben, il se retrouvait en prison et dans des conditions là-bas atroces. Comme souvenir d'ailleurs qu'on lui avait même cassé les jambes pour l'empêcher de partir. Puis un jour, dans la prison, le Seigneur lui dit, mets-toi debout, avance. Les jambes cassées. Il ne pouvait pas se lever. Il s'est levé. Il a marché. Il dit, franchis la porte. Il est sorti de la cour de la prison, il a pris la porte et hop, libre. Un peu comme la histoire de Pierre. Une expérience extraordinaire, les jambes cassées, incapable de pouvoir bouger, marcher. Et Dieu lui dit de se lever. La miséricorde de Dieu s'est manifestée en lui. Il avait fait une énorme erreur et Dieu lui a pardonné. Il a pu en témoigner ensuite de l'amour de Dieu et de la grâce de Dieu pour sa propre vie. Et cet homme, vraiment, il rayonnait de l'amour de Dieu. Lorsqu'on s'adressait à lui, on lui parlait, c'était quelque chose d'extraordinaire. Je me rappelle toujours de ce moment qu'on a pu partager ensemble. Et j'étais à ce moment-là avec... il y avait John et Yolande. Vous savez, qui était à Bornéo. Et c'est là qu'on a fait leur connaissance. Et c'est là aussi que Dieu m'a montré des choses qu'il fallait que j'aille les visiter. Et c'était aussi une conduite de Dieu dans sa miséricorde de nous faire des voyages, un voyage qu'on n'aurait jamais pu imaginer. Après une grave opération, partir là-bas à l'Équateur. Bon, un peu fou, hein. Mais Dieu était grand. Et Dieu nous a conduits. Cette miséricorde, elle est là, manifestée. Elle est sans limite. Sans limite. Et pour vous aussi. Vous dire, oh, c'est bien pour toi, tu es un prédicateur, tu es un pasteur, c'est facile, toutes ces choses-là. Mais non, c'est vrai pour nous tous. Aucun n'est oublié de Dieu. Il n'y a pas de chouchou. J'ai entendu des gens dire parfois, oui, Dieu, il préfère celui-là que moi. Quelle idée! Réjouis-toi que cet homme ou cette femme a reçu quelque chose de particulier pour servir Dieu et qu'il le fait avec joie. Vous savez, la jalousie chez le chrétien, ça existe, hein, spirituellement parlant. Je ne parle pas de ce qui est charnel. Soyons heureux de ce que quelqu'un ou quelqu'une vit quelque chose de fort avec le Seigneur. Parce que c'est pour que les hommes et les femmes qui sont autour puissent voir la puissance de Dieu manifestée. Elle est sans limite pour ceux qui le craignent. Dieu a compassion de nous. Vous le croyez ? Je veux croire que pour ceux qui aujourd'hui ont doute de dire que Dieu ne vous aime pas, vous vous trompez. Et certains parmi nous, je pense, ont eu cette pensée il y a des années, ils ont réalisé qu'ils étaient en dehors de la réalité et qu'aujourd'hui ils sont là parce que Dieu leur a fait miséricorde. On connaît qui disent « Je suis indigne de Dieu, Dieu ne peut pas m'aimer, je suis trop moche, je suis trop dur, je suis trop méchant, je suis trop instable, il ne peut pas m'aimer. » Mais si, parce qu'il peut nous changer. Si on le veut, si on le désire, nous avons obtenu miséricorde de la part de Dieu. Mais, en retour, sommes-nous miséricordieux pour les autres ? Dans l'évangile de Matthieu, un récit où il parle d'un roi qui a commencé à faire ses comptes. Et puis il a vérifié les comptes de tous ses serviteurs. Et puis il est arrivé à un homme qui lui devait 10 000 talents. Je ne sais plus combien que ça fait de milliards aujourd'hui. Hein ? Alors, il lui dit, maintenant, pour régler, on va te vendre toi, ta femme et tes enfants. Hein ? Comme ça, ta dette est réglée. Oh, le serviteur se met à genoux et dit, Seigneur, Seigneur, je te rendrai tout. C'était impossible. Je te rendrai tout. Et Dieu a eu compassion. Dieu, le roi a eu compassion de lui. Il l'a libéré. Bon, là, il sort dans la rue et il rencontre quelqu'un qu'il connaissait bien et qui lui devait, je ne sais pas combien de deniers. Vous savez, le denier, c'est le salaire d'une journée. Hein. Il le grippe, il le prend par le cou, il l'amène chez le juge et ce homme est mis en prison. Le roi apprend la chose, alors vous savez la suite. Hein. Qu'en est-il de ce serviteur ? Qui a manqué de miséricorde. On lui a pardonné des choses énormes, et lui, pour un petit peccadille, rien du tout, il va conduire devant le tribunal cet homme. C'est un défi, hein, la miséricorde. Gisèle, tu es là. C'est toi, oui. Je me rappelle de quelque chose que tu as vécu il y a des années. Je crois que ton fils avait jeté un ballon dans une vitre chez le voisin. C'est vieux, hein, mais j'ai une bonne mémoire. Le voisin. Et ce voisin, alors, il était pénible, difficile, terrible. Il avait fait des histoires pour l'histoire du ballon. Et puis on avait fait une étude sur le pardon. Je ne sais pas si c'était chez toi ou chez Marie-Annick. Et on a fait une étude sur le pardon. Pardonner à nos ennemis. Alors tu avais décidé, ce jour-là, tu nous avais dit, je vais pardonner à cet homme, tant pis, il est méchant, il est dur, mais je vais lui pardonner, moi, en tant que chrétien, il faut que je lui pardonne, je ne vais pas lui en vouloir. Et tu es sur la route, en voiture, en face arrive une autre voiture. C'était le monsieur en question. Alors tu dis, mais il faut que je m'arrête. Mais lui, il s'arrête avant toi. Et lui, il vient de te voir. Tu te rappelles ? Oui, je me rappelle, moi. Et te demande pardon pour tout ce qui s'était passé. Oui. La miséricorde de Dieu. Quand on décide une chose pour honorer le Seigneur et pour lui plaire, eh bien, il touche même la personne qui est notre ennemi. Et il y a possibilité de réconciliation et de guérison. C'est ça l'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu en nous, qui nous fait aller au-delà de nos forces et de nos capacités, de nos résistances. Oui, quand j'ai réfléchi à ce message, j'ai pensé à toi, tu vois. Maintenant, tu vas t'en rappeler. Je ne sais pas s'il est toujours vivant, ton voisin. Oui. Mais c'était quelque chose qu'on a vécu à cette époque-là, hein, et qu'on peut vivre encore aujourd'hui. Nous sommes ceux qui devons être miséricordieux. Quand, dans ce sermon sur la montagne, à partir du chapitre 5 de Matthieu, il est parlé, il dit, il est écrit pour les anciens, tu aimeras tes amis, mais tu haïras ton ennemi. Et Jésus dit, moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez-les, faites-leur du bien, etc., etc. La miséricorde s'exerce non pas à travers ceux qui nous aimons, simplement, mais aussi vers ceux que nous détestons. Je dis bien un mot fort, que nous pouvons haïr. Témoigner de cela dans notre vie de tous les jours, c'est important. Si on n'est pas prêt à pardonner, si on n'est pas prêt à faire miséricorde, à oublier la faute de l'autre, souvent les gens disent « je pardonne mais j'oublie pas, ne recommence pas ». Mais non, je pardonne. Quand Pierre a demandé combien de fois faut-il pardonner par jour, 7 fois, Jésus a dit 70 fois, 7 fois. C'est dur, l'infini, quoi. Avoir dans notre cœur cette pensée que nous pouvons faire du bien même à nos ennemis. Et nos ennemis changer et devenir nos amis. On dit, mais c'est pas possible. Mais si, c'est possible. Par la puissance de Dieu, c'est possible. Avec nos forces, non. Mais aimons nos ennemis parce que Dieu nous a aimés le premier. Les étrangers, les malheureux, les affamés, les déshérités, les malades, j'en passe. Voyons aujourd'hui dans le monde la situation qui est là. Vous la voyez, vous l'entendez tous les jours. En tant que chrétien, quelle soit notre attitude par rapport à tous ces hommes et ces femmes qui sont obligés parfois de fuir leur pays pour rechercher un refuge? Est-ce qu'on va dire restez à la frontière, retournez chez vous, ou bien faut-il ouvrir nos maisons? Faut-il élargir notre cœur pour que ceux et celles qui ont des besoins véritables, bien sûr, il y a des profiteurs. Il y en aura toujours. Mais il y a des gens qui ont des besoins. Et ces besoins-là, ils sont naturels. Dans l'Écriture, c'est marqué « Accueillez l'étranger ». L'Écriture le dit. En tant que chrétien, on ne peut pas dire que ce n'est pas vrai. C'est l'Écriture qui le dit. Oui, les étrangers. Quand on parle mot « étranger », la racine, c'est « étrange ». Est-ce que ces gens sont étranges? Est-ce qu'ils sont mal formés, ils ont toutes sortes d'allures bizarres, ou ils sont comme nous, hein? Hommes ou femmes? Peut-être qu'ils parlent une langue qui n'est pas la nôtre. Mais on peut l'apprendre. Ils peuvent l'apprendre, la nôtre aussi. Notre bonheur est tel, frères et sœurs, que nous aussi, nous avons miséricorde pour ceux qui sont autour de nous. Parce que nous aurons des comptes à rendre si nous ne le faisons pas. Mais alors, comment faire? Que faut-il faire? Je pense que d'abord, la première chose, c'est pas de laisser notre nature agir et œuvrer, c'est de demander à Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse, Seigneur? Dans telle situation? L'interrogation dans nos vies. Seigneur, délivre-nous de nos traditions, de nos préjugés, de tous nos pensées qui sont là, liées à des générations et à des générations. N'oublions pas que nous devenons une nouvelle créature lorsque nous nous tournons vers Jésus. Que les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Ça, c'est des réalités. La paille à la poutre, n'oublions pas. La critique, le jugement qu'on peut avoir au milieu de nous. On parlait tout à l'heure de l'extérieur, mais à l'intérieur. Le fort et le faible, dont parle Paul dans l'Épître aux Romains. Le fort qui écrase le faible, et le faible qui fait un croc en jambe au fort pour le faire tomber. Des luttes stupides, qu'on y pense, si on y réfléchit. Pourquoi être en train de se chamailler dans l'église de Dieu. Pourquoi sommes-nous incapables de pardonner à notre frère? Même s'il nous a fait une vacherie. Hein? Ça arrive, hein? Ça arrive. Mais, utilisez, excusez-moi pour le mot que j'ai utilisé, mais c'est vrai que parfois, il y a des comportements qui nous sont parfois désagréables. Mais si nous pardonnons, si nous manifestons la même miséricorde que Dieu a eue à notre égard vis-à-vis de ces hommes et ces femmes, beaucoup de choses vont changer. Et l'harmonie va venir. L'Église ne doit pas être une cacophonie. Il y a des bruits dans tous les sens, avec des notes qui ne correspondent pas du tout, avec des couacs partout. Mais une harmonie. N'est-ce pas, nos musiciens, il faut que vous soyez en accord, parce que si vous commencez à jouer un morceau et puis l'autre à côté un autre, et qu'une partie des chants correspond à l'un, mais pas du tout à l'autre, alors ils refusent de le chanter. Non, une harmonie. Dieu veut donner une harmonie dans nos vies. Et comment pourrait-on, si on ne peut pas être ici, entre nous, en paix, que nous puissions être capables de passer outre à des choses qui ont pu être dites ou redites, hein, parce qu'on m'a dit que, hein, on m'a dit que, qui c'est on? Qui c'est on? Il y a des noms. Tout à l'heure, il dit, on a tous des noms que tu connais. Nous ne pourrons pas gagner d'âme si nous nous comportons de cette manière-là. La miséricorde, on peut dire, c'est un des fruits de l'esprit, d'une certaine manière, la bonté. Hein? Si dans notre vie, nous recherchons les fruits de l'esprit, les choses vont changer. Pour chacun de nous. Pour moi, comme pour nous. C'est un combat de tous les jours. Dans l'Épître aux Colossiens, il faudrait vous lire dans le chapitre 3, pour conclure, à partir du verset 12. Voilà ce que Paul donc dit à ces chrétiens. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Tout ça, c'est lié à la miséricorde. On peut voir ici, en somme, des mots qui sont synonymes. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Par-dessus tout ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. Soyez reconnaissants. Amen. On va prier. Merci Seigneur pour ta parole. Merci parce qu'elle nous éclaire sur les réalités de notre vie. Elle ne cache rien. Et ce matin, je te bénis de ce que nous ayons pu aborder ce sujet de la miséricorde. Pardon Seigneur si nous avons été parfois durs, exigeants pour les autres et pas du tout pour nous. Pardon Seigneur pour l'attitude parfois orgueilleuse que nous pouvons manifester parce que nous t'appartenons et le mépris que nous avons pu avoir pour ceux qui ne t'appartiennent pas. Donne-nous, Seigneur, de changer de cap et de vivre pleinement ce pourquoi tu nous as mis sur cette terre, t'annoncer toi, le miséricordieux, celui qui est riche en bonté, celui qui pardonne. Et il ne cesse de pardonner. Oui, nous nous repentons de nos fautes, de nos faiblesses. Nous reconnaissons que notre chair parfois peut dominer sur nous. Mais désirons de tout cœur que toi, Seigneur, avec notre accord, on peut dire, avec notre décision propre, de vivre autrement et de faire que ta volonté soit visible dans nos vies. Confions encore notre avenir. Pensons alors à la rentrée pour les enfants. Pensons à la rentrée pour chacun aussi, pour ceux qui ont été en vacances et qui reprennent leur travail. Pour que là aussi, sur le monde du travail, dans le lieu où on est, nous puissions manifester ta miséricorde. Et vivre pleinement de toi et nous réjouir en toi. Tu es celui qui nous abreuve de ces délices. Tu es celui qui nous remplit de toi. Comme Jean-Baptiste disait, il faut que je diminue afin qu'il grandisse. Oui, grandis en nous, Seigneur. Et fais que notre vie, cette année, cette nouvelle année, en somme, on va dire, liée à la scolarité, liée au... Nous soyons aussi de bons élèves, apprenant ta parole, connaissant ta parole et la mettant en pratique. Et cela afin que ton nom soit glorifié. Toi seul, Seigneur. Amen. Amen. Amen.